questions, nos réponses.
Alors bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors cette semaine, on évoque un sujet d'actualité. Depuis le 3 avril dernier, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et apparentée ne pourra plus conduire de véhicule. C'est un arrêté qui a été publié au Journal officiel et qui acte, je cite, « l'incompatibilité définitive avec la conduite pour les pathologies neuroévolutives type maladie d'Alzheimer ». Pour parler de ce sujet, je suis en ligne avec Benoît Durand, directeur général de l'association France Alzheimer. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes en ligne également avec Dominique Lelièvre, qui vit seule dans un village de 600 habitants, qui est atteinte de la maladie à corps de Lévy et qui va témoigner sur ce sujet. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et merci à tous les deux donc d'être avec nous. Une première question, Benoît. Cette décision, comment a-t-elle été perçue au sein de l'association ?
Alors, je pense qu'elle a été perçue, je vais parler de manière personnelle, moi j'étais extrêmement surpris et ensuite très en colère. Et je pense que c'est la perception générale du réseau, de l'ensemble en fait des personnes concernées et de nos associations, de nos bénévoles. Pourquoi surpris et en colère ? Première phase de la surprise, on mène une étude sur la Alzheimer et mobilité, notamment avec la Fondation Médéric et avec la prévention routière, qui est financée quand même majoritairement par la CNSA, et le ministère de l'Intérieur est impliqué aussi dans cette étude. Elle est menée depuis plus d'un an, et on devrait avoir rendre des résultats d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Et du coup, apprendre ça, alors qu'en fait le sujet est plus que complexe et que cette étude qui aura duré un an et demi était en cours, j'avoue que la surprise était grande. Ensuite, l'arrêté en question parle d'une décision du retrait de permis de conduire avec, soi-disant, l'utilisation d'une échelle, dite échelle de Reisberg. Et quand on interroge des professionnels de santé, ils nous disent « mais cette échelle n'est plus utilisée depuis plus de 20 ans ». Donc déjà, on se dit « ok, il y a quand même quelque chose qui ne va pas ». Enfin, cette décision est complètement arbitraire par rapport à des jalons. C'est une méconnaissance totale de la maladie. En fait, il y a une évolution dans le déclin cognitif. Et c'est pas parce que vous êtes diagnostiqué que vous ne pouvez pas conduire. Il y a des graduations. Peut-être que à terme, on arrivera effectivement à une suspension du permis de conduire, à un retrait, dire à la personne qu'elle n'est plus en capacité de conduire. Mais en fait, il y a une graduation. Il n'y a pas une personne en fait malade qui ressemble à une autre personne malade. Donc en fait, c'est assez complexe. Et on peut pas décider du jour au lendemain. Ce qui avait été dit dans l'arrêté, c'était quand même dès l'apparition de troubles cognitifs, sans savoir qui. On parlait même pas de diagnostic. Donc c'était quand même assez troublant. Et enfin, et pour terminer, il y a plein de zones d'ombre qui persistent dans cet arrêté. Qui prend la décision du retrait? Comment les personnes malades sont accompagnées? Est-ce qu'il y a un substitut d'aide au transport? Comment les familles sont soutenues? Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Comment sont-ils soutenus? Enfin bref, il y a plein de questions.
Et on va y revenir un petit peu plus en détail, bien évidemment. Alors Dominique, je le disais, donc vous avez la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie apparentée. Concernant cette décision, donc, quel est votre sentiment général?
Je rejoins tout à fait le directeur général de l'association, mais que, étant à titre personnel directement impacté, je vis les choses de façon encore plus épidermique. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance de cet arrêté dès sa parution, sur mon fil d'actu, tout bêtement, par une dépêche de l'AFP. J'ai d'abord été incrédule, j'ai étudié le texte, et dès le lundi, suivant sa parution, je me suis mise en quête de plus amples informations. Et là, je me suis heurtée littéralement pendant une semaine à la méconnaissance du texte. Mais il faut imaginer, depuis, ma première démarche a été auprès de mon assureur, tout bêtement, qui ignorait ce décret. Et mon dernier appel a été à la préfecture, au service des permis de conduire, qui en ignorait également l'existence. C'est-à-dire qu'on a placé dans une situation d'impossibilité de vie un certain nombre de personnes, parce que quand vous citiez mon exemple personnel, donc je vis seule, j'ai la maladie à corps de Lévy depuis plus de 10 ans, dans un village de 600 habitants, donc jusqu'à présent avec ma voiture, avec mon camping-car, en totale autonomie. Le premier commerce alimentaire, je je ne parle pas d'une grande surface. Hein. Le premier commerce alimentaire se trouve à 7 km de mon domicile, allez. La première gare se trouve à 25 km. Mon médecin est à 45 km. Mon orthophoniste à 45 km. Au jour d'aujourd'hui, avec ce décret, dans sa stricte application, je ne peux strictement pas vivre, tout simplement. Et quand je me suis rapprochée des services censés venir en aide aux personnes handicapées, à savoir les différentes structures, maisons des services locales, jusqu'à la MDPH départementale, la seule réponse a été « Bon courage, madame ». Et je n'ai droit à ce jour qu'à l'usage de mes chaussures.
Benoît Durand, quand on entend ce genre de témoignage, il n'est pas le seul, point 1. Et point 2, on peut quand même se demander sur quels critères ce genre d'arrêté est pris, clairement.
Bah, on est bien d'accord. Franchement, bah, c'est pour ça que quand je vous ai parlé de surprise et de colère, la surprise, moi je suis tombé de ma chaise, je croyais que c'était un poisson d'avril, un petit peu en retard, parce que justement les critères, on les connaît pas bien. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse échelle de Richter, hein, où les professionnels l'utilisent plus depuis plus de 20 ans. On se dit, et c'est complètement inadapté, enfin, ça ressemble à une mesure arbitraire, sans connaissance de la maladie, sans connaissance des difficultés que peuvent vivre les personnes, et du coup, Dominique vient de le dire, et surtout sans accompagnement, sans substitut, sans explication, je réponds toi encore.
Si on s'en tient en plus à cette fameuse échelle de Riseberg et son niveau 3, dans le détail, c'est d'un comique sans nom. C'est-à-dire qu'on doit, pour être victime de cette interdiction de conduire, présenter au moins un des, entre guillemets, symptômes de ce niveau 3 de cette échelle. Dans les symptômes en question, il y a par exemple le fait de pouvoir se perdre dans un endroit inconnu. On est susceptible d'avoir des témoignages de notre entourage professionnel nous signalant une baisse d'efficacité. Ou alors, par exemple, on peut égarer ou placer dans un endroit inopportun un objet d'usage courant ou de valeur. Mais je suis désolée. Interroger 95% des automobilistes français, je suis convaincue que 95% de ces automobilistes présentent plus d'un trouble et rentre donc dans cette fameuse échelle de Riseberg, ce qui est parfait, on va respecter la planète, et on va enfin respecter les prochains rapports du GIEC. Plus personne ne peut conduire, tout simplement.
C'est clair, et encore une fois, en fait, on stigmatise une maladie qu'on connaît, que le législateur connaît pas bien, voire pas du tout, quoi.
Oui, et ça aussi, c'est un autre problème qu'il faudrait aussi régler au plus vite. Benoît, vous nous parliez tout à l'heure de cette étude hein, qui a été faite donc avec l'association France Alzheimer, la fondation Médéric Alzheimer et la prévention routière. Les conclusions, on les connaîtra dans quelques mois. Pour autant, quel était le but justement de cette étude avec ces trois entités ?
Ben justement, le but, c'est exactement cette problématique-là. Parce que en fait, c'est une problématique. En fait, comment fait-on quand une personne est diagnostiquée d'une maladie Alzheimer ou une maladie apparentée ? Justement, il y a des stades où la personne en fait n'est pas à danger pour autrui sur la route. Et ensuite, c'était quid de la responsabilité que peut prendre quand une personne malade a un aidant, quelle responsabilité peut prendre l'aidant, quid de l'assureur, bref, c'était un peu tout ça. Et c'était aussi pas forcément que pour les malades d'Alzheimer, c'était aussi pour les personnes âgées. Mais nous, en fait, on faisait un focus sur les personnes malades, et donc il y a aussi un institut de sondage, on a interrogé un panel de personnes assez nombreux, il y avait des personnes malades aussi qui ont témoigné, savoir si continuent à conduire ou pas, si oui, c'était dangereux ou pas, comment ils s'y prenaient, on a interrogé aussi des aidants, et c'était pour essayer de trouver des solutions, des palliatifs aussi, pour voir comment ça pouvait être mesuré, mesurable, une évolution dans le temps, pourquoi pas faire des tests dans les écoles de conduite. Enfin, c'était plein de petites choses comme ça, alors je peux pas vous révéler encore complètement les résultats parce que c'est en cours. Le dossier était assez lourd pour pas, en fait, justement prendre de décisions arbitraires et d'essayer de faire du cas par cas et d'essayer de trouver en fait des pistes de solutions sans avoir forcément la solution absolue, des pistes de solutions pour un accompagnement digne de ce nom. Et du coup derrière, c'était aussi comment on peut annoncer à la personne malade qu'au bout d'un moment, et qui le fait, qui retire les clés à un moment donné, que la personne n'est plus en capacité de conduire, qu'elle peut être éventuellement en fait un danger pour autrui, un danger pour elle-même. C'était toutes ces étapes-là, donc c'est un gros dossier, c'est un peu lourd, mais c'était un peu le but de cette étude.
Oui, et c'est complètement nécessaire. On en a encore la preuve aujourd'hui. Dominique, on ne vous a proposé donc aucune solution alternative à cette problématique.
Aucune solution, et je suis donc dans l'obligation de moi-même trouver cette fameuse solution qui va me permettre, moi, de continuer tout bêtement à vivre, d'aller jusqu'au bout de mon projet de vie, parce que c'est bien un projet de vie que j'avais construit avant ce décret et qui est complètement anéanti, tout en sachant qu'en plus, cette solution que je suis en train de me construire, donc par exemple, une des solutions que j'ai trouvées, moi demain, j'ai rendez-vous dans une auto-école du village voisin pour passer une heure de conduite avec la directrice de l'auto-école et qui m'évaluera à l'issue de cette heure de conduite et me fournira une attestation sans la moindre valeur, mais une attestation qui certifiera que je suis en mesure de conduire. J'ai réuni autour de moi un maximum de témoignages parce que cette question de ma dangerosité au volant, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Donc l'ensemble de mon entourage a mandat de ma part de bien vérifier que je suis encore capable de. Donc j'ai un certain nombre de témoignages. Ensuite, je vais bien évidemment vendre mes véhicules puisque je n'ai plus le droit de conduire et que je ne peux plus les assurer. Et je vais passer aux véhicules sans permis, sans pour autant avoir la garantie que j'ai l'autorisation de faire ça. Mais à l'heure actuelle, de toute façon, aucune structure ne me répond. C'est-à-dire que j'ai fait appel à des avocats spécialisés du droit routier, j'ai fait appel à la préfecture, j'ai fait appel au service juridique de la MDPH, au service juridique de mon assureur, au service juridique de mon hôpital, et les réponses divergent. Et moi, je n'ai pas le choix. Je vais acheter un véhicule neuf pour une somme mais astronomique. Je vais perdre un argent considérable sur la vente en urgence de mes véhicules. Je suis obligée en 15 jours de temps de prendre ces décisions, de m'organiser, de trouver les fonds, sans pour autant être sûre de rester dans un cadre légal. Juste, j'ai trouvé un assureur qui me prend tout risque. J'espère en plus que dans quelques jours, semaines, mois, il n'y aura pas un gendarme qui va m'arrêter en me disant que ça non plus, j'ai pas le droit. Sinon, à part mourir de faim au milieu de ma cour dans mon village, je ne sais pas quoi faire.
C'est un témoignage assez fort. Même dans l'arrêté, il y a un flou artistique complet entre retrait de permis de conduire ou remise en cause de la capacité à conduire. Ce qui n'est pas la même chose, parce que si vous prenez un scooter, un vélo, une voiture sans permis, si vous n'avez pas forcément la capacité à conduire, et que ce décret vous concerne pas, vous êtes aussi un danger pour autrui potentiel, voire un danger pour vous-même. Donc c'est là aussi, il y a une aberration complète, quoi.
Et c'est quand même dingue que des solutions ne soient pas proposées et que les personnes en soient, à comme le disait Dominique, à vendre des véhicules, à devoir faire des assureurs qui ne veulent plus l'assurer. Enfin, on marche sur la tête quand même.
Ah bah là, on marche sur la tête. Alors là, je suis complètement d'accord, parce que en plus, effectivement, les assureurs, je pense qu'ils étaient pas du tout au courant de tout ça. Pour l'instant, les démarches qu'on a faites, alors on espère que ça va aboutir. Alors après, effectivement, ça peut prendre du temps, mais du coup, on a eu la chance de croiser cette semaine le Premier ministre au cours d'un déplacement. Donc on en a fait part, on lui envoie un courrier ce jour recommandé, et il nous a promis d'étudier la chose. On aimerait bien avoir en fait un entretien avec lui, avec la sécurité routière, pour savoir exactement ce qu'il en est, parce que du coup, on voudrait faire annuler complètement cet arrêté. Et on a aussi saisi les défenseurs des droits, puisque là, du coup, c'est quand même une mesure complètement discriminatoire. Et donc, du coup, voilà, c'est les mesures concrètes qu'on est en train de mener.
Alors, il y a eu aussi d'autres associations qui se sont indignées de cette décision. La sécurité routière a quand même fait depuis un pas en arrière, en affirmant que l'arrêté à plusieurs échelles, d'abord le médecin traitant qui livre son analyse, ensuite l'avis d'un médecin agréé qui lui-même peut demander des tests cognitifs, etc., etc. Est-ce que c'est une façon de dire bon bah ça c'est du cas par cas et puis voilà. Vous en pensez quoi de ça, Dominique, par exemple?
Bien évidemment, on va essayer de se défausser sur cette solution. L'attestation écrite de mon médecin, je l'ai en main. La confirmation par ma neurologue que je vois depuis plusieurs années, tous les 4 mois, voire parfois tous les trimestres, ce qui est une régularité quand même assez exceptionnelle. ma neurologue confirme qu'elle a systématiquement interrogé mes aidants ou mes proches sur ma capacité à conduire et qu'elle confirme cette capacité à conduire. J'ai essayé de contacter, je ne saurais pas vous dire là aujourd'hui, à l'instant, un nombre invraisemblable de médecins experts, c'est littéralement impossible. C'est-à-dire qu'ils sont surbookés, un bon nombre d'entre eux ont arrêté ce domaine d'expertise parce qu'ils sont aussi médecins de ville tout simplement et que la partie administrative est trop importante. On nous fournit des listes en préfecture de médecins agréés dont un bon nombre n'exerce plus, le cabinet est fermé depuis... Imaginez l'imbroglio déjà dans lequel on se trouve. Et ceux que j'ai réussi à avoir en ligne, enfin leur secrétariat plutôt, je ne peux avoir de rendez-vous au mieux avant l'été. C'est-à-dire que la question se pose pour moi aujourd'hui. Une question de survie aujourd'hui. Je survis comment? Pendant plusieurs mois, jusqu'à l'été, plus j'imagine la partie administrative, le temps qu'il me livre ses conclusions et ainsi de suite. Mais je fais comment? C'est strictement impossible. Et si on s'en tient stricto sensu à la lecture de ce décret, nous ne sommes pas concernés par l'hypothèse d'un recours ou de je ne sais quoi. Il s'agit bien de l'arrêt définitif. On a atteint ce stade sur cette fameuse échelle de Reisberg. En ce qui me concerne même, si je suis lucide, je suis peut-être même sur cette échelle incohérente, je suis peut-être même non pas au niveau 3, mais au niveau 4. Donc de toute façon, mon espérance, si on demande à un médecin agréé d'utiliser cette échelle, forcément qu'il ne peut reconnaître que mon niveau 3 ou 4. J'ai pas de recours possible.
Donc en conclusion, Benoît Durand, suite à ce que vient de dire Dominique, pardon pour ce terme, mais c'est un peu ça, le combat continue très clairement.
Le combat continue, mais même par rapport à ce témoignage, en fait, ça soulève plein d'autres problématiques. On parle des médecins généralistes, mais les médecins généralistes, loin s'en faut, ne sont pas tous formés à la pathologie des troubles cognitifs et des pathologies d'Alzheimer. Et donc, voilà, donc ça c'est une première chose. Donc du coup, je vois pas trop comment certains, en tout cas, pourraient diagnostiquer. Alors, en fait, normalement, ils ne peuvent pas, c'est plutôt les neurologues. Les neurologues, Dominique en a parlé, dans certains territoires, vous avez 18 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Donc ça pose aussi des problématiques. Donc effectivement, le combat continue, il est un peu général. On est un petit peu quand même un peu frustré, en colère sur beaucoup de sujets. J'ai l'impression que... En tout cas, le gouvernement ou les politiques ne prennent plus vraiment en compte, en fait, malheureusement, cette pathologie d'Alzheimer est maladie apparentée, en tout cas à l'échelle qu'il faudrait. Après avoir eu un plan Alzheimer digne de ce nom, on a eu un plan maladie neurodégénérative. Et maintenant, on a eu pendant 5 ans, nous emmener en bateau sur des feuilles de route qui ne sont pas financées. Bref, donc oui, le combat continue et le combat, il est grand et... Il y a ce sujet-là, mais il y en a plein d'autres. Voilà, on va se battre pour la dignité des personnes qui malheureusement sont atteintes de ces pathologies et aussi pour les aidants qui sont aussi en souffrance par rapport à ces situations. Voilà.
Merci à tous les deux pour vos mots et votre témoignage.
Merci à vous.
Merci.
Merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Vous pouvez continuer de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.